Sur Nov à 12h37, les rendez-vous de midi jusqu'à 13h. Sur Nov en direct, votre invité aujourd'hui, Michel Adrien Emmanuel.
Nous recevons avec beaucoup de plaisir une grande figure de l'île de Noirmoutier. Il y est né en 1933, il y a 88 ans. Il a grandi, on est parti un moment, puis revenu à la tête d'un groupe présent sur plusieurs continents, Grand Prix des écrivains de Vendée. En 2018, je le précise, on en avait parlé pour ses deux livres de mémoire, L'appel du large et Toujours plus loin. Michel Adrien sort un nouveau livre, alors plein d'espoir, qui regorge d'informations sur un sujet qui est brûlant d'actualité. Je vous imagine très bien, Michel Adrien, les yeux rivés sur la COP26. Le livre, c'est La victoire climatique, être résolument et objectivement optimiste. Bonjour Michel Adrien.
Bonjour. Merci de m'avoir invité.
Merci de venir nous voir. Vous avez passé le pont, peut-être le Gouin, pour venir jusqu'ici. Le pont ce matin. On va rentrer d'emblée dans le sujet avec ce titre. Il est très positif, très optimiste. Il vient trancher avec un environnement et un discours qui est plutôt anxiogène sur le sujet. Vous dédiez ce livre à vos arrière-petits-enfants, dont une petite dernière née en décembre 2020. Ce sont vos arrière-petits-enfants qui vous ont inspiré.
Oui, mes petits-enfants, ma petite fille était à jouer aux cartes avec des amis quand je passe à côté d'eux et je m'aperçois qu'ils parlaient du réchauffement climatique mais avec angoisse. Oui, moi je ne ferai pas d'enfants, etc. Je dis mais c'est pas possible. Parce que je suis persuadé, moi, que nous allons, et je ne suis pas le seul, que nous allons réussir à vaincre le réchauffement climatique ou à le limiter en dessous de 2 degrés. Ça n'apparaît pas aujourd'hui encore d'une manière évidente, mais il y a des progrès qui sont faits, qui nous indiquent que c'est une certitude, nous allons le faire.
Vous avez voulu faire un livre donc plein d'espoir, hein. C'était le but.
Oui, c'est ça. Et il y a tout pour ça, parce que le déclenchement, c'est l'année dernière. L'année dernière, les énergies renouvelables, les deux énergies sur lesquelles nous devons nous appuyer, nous allons nous appuyer pour nous en sortir, ce sont le solaire et l'éolien. Ces deux énergies, parallèlement, c'est pas par hasard, ça fait quand même 30 ans qu'on subventionne ces deux énergies, et en 30 ans, l'humanité a mis au point ces deux énergies qui vont remplacer tout le fossile et le nucléaire demain, après-demain. On aura encore besoin du nucléaire un certain temps. Notre président nous a rappelé ça
hier soir.
Mais je pense que c'est transitoire. Ce qui s'est passé, le grand basculement, c'est que l'année dernière, les prix de l'éolien et du voltaïque sont inférieurs à celui du nucléaire. Et ce prix va continuer de baisser.
Et c'est évidemment toute la portée de l'enjeu aussi, hein, évidemment, écologique, économique. Alors votre livre, on va en parler en détail, hein, on va pas tout raconter, mais on va quand même évoquer en détail son déroulé. Il démarre fort avec une préface de Jean-Luc Vernadet, qui rappelle vos jeunes années de marin, votre caractère pionnier, le développement de sociétés dans plusieurs villes du monde. France Turbo, évidemment, sur l'île de Noirmoutier. Jean-Luc Vendanet, que vous avez accompagné pendant des années, il le dit d'ailleurs, hein, dans ses projets maritimes.
Oui, eh bien, je l'ai contacté, enfin on s'est rencontré à un festival, après le premier Vendée Globe, où je l'avais remarqué. Et on a fait un deal tous les deux, et ce qui a duré 25 ans, je l'ai sponsorisé pendant 25 ans. C'était pas pour faire de la publicité pour un produit, mais comme j'avais une vingtaine d'entreprises sur 6 ou 7 pays sur 3 continents, c'était un lien entre toutes les entreprises, tous les cadres, etc. Mais c'est incroyable, comme la mayonnaise a pris, comme tout le monde le suivait, et lui, il jouait parfaitement le jeu, parce que c'est un homme très sociable, très correct en affaires. Vraiment, on a eu un deal agréable, je pense, pour lui comme pour moi.
Vous avez un côté pionnier aussi, hein, dans ce partenariat, dans plein de domaines. C'est assez jeune, assez vite, je vous lis, notamment dans vos premières années en Afrique, qu'une conscience de l'impact de l'homme sur les ressources naturelles, on ne parle pas encore de ça, me disiez-vous, et notamment maritime, naît en vous. France Turbo va être quelque part une réponse, hein, peut-être pas forcément créée pour cela, mais l'aquaculture, c'est une réponse à ces ressources qui ne sont pas du tout inépuisables. À l'époque, on ne les pense pas inépuisables.
Ah ben, quand j'étais jeune, mousse et novice, il fallait surtout pas parler de ressources, mais non, mais la mer, c'est immense, les 3/5 du globe, enfin, c'est inépuisable, ne parlez pas de ça, il y aura du poisson, il a fallu cultiver chez les cueilleurs, on a après cultivé, et puis après on a élevé, mais les poissons, non. Et quand je suis arrivé en Afrique, par hasard, non, pas par hasard, parce que j'y suis pas. À l'époque, c'était une aventure, on n'y allait pas en avion, etc. J'ai découvert là-bas une faune telle que Dieu a fait le monde. Mais si vous saviez, je le décris dans mon livre L'Appel du Large, si vous saviez les scènes que nous avons vues, et là, quelques temps après, j'avais repéré un stock de hareng tropical qui était sur un plateau, un immense plateau, et j'ai commencé à pêcher avec un seul bateau, moderne, et on sortait 1000 tonnes par mois. Et avec un même bateau, avec un même engin, au bout de 2 ou 3 ans, j'ai vu décliner la production par effort de pêche, c'est-à-dire l'indicateur principal qui... Vraiment, on tapait dans la ressource et elle baissait. Ce qui n'était pas du tout imaginable à l'époque.
C'était une surprise pour vous.
Pour moi et puis pour beaucoup de gens, oui.
Vous avez noté chaque année
mes carnets de bord ont servi à l'Orsom, l'Office scientifique de recherche d'outre-mer, justement pour modéliser l'impact de l'homme sur cette ressource.
On est dans quelles années là? Les années 60, 70
63 ou 4, oui.
Donc début des années 60, vous notez effectivement mais que cette ressource, elle n'est pas inépuisable. Dès les premières pages de votre livre, vous nous rappelez, et vous rappelez donc à vos jeunes descendants, notre chance de vivre sur la planète Terre, miracle de la vie qui se produit chaque jour. On sent dans ces premières pages votre capacité d'émerveillement, toujours active.
Oui, j'ai toujours, comme beaucoup de gens qui écrivent, il y a toujours l'enfance qui est là, où quand on découvre la vie, etc., tout est tellement beau, et puis la mer. La mer, c'est pour moi le summum, c'est la nature avec ses tempêtes, avec ses calmes, comme la pêche, le poisson. Quand on sort un poisson de l'eau, un thon, mais c'est une merveille. Il y a toutes les couleurs qui se ternissent avec la mort.
Vous entamez un rappel de l'histoire, donc de la formation de la Terre. Alors moi j'étais un peu surprise de voir toute cette partie un peu donc historique, l'évolution, le grand coup d'accélérateur qui va venir à un moment donné sur la démographie, l'économie, la technologie, ce coup d'accélérateur qu'on vit encore et depuis finalement une très très courte période à l'échelle de l'histoire. Mais voilà, c'est tant un peu d'histoire, d'évolution, après on va voir même philosophique un peu. C'est important pour vous de les écrire pour qu'on comprenne aujourd'hui ce qui se passe.
Pour bien nous situer dans l'immensité, mais aussi dans le temps, parce que c'est quand même, comme vous dites, une très courte période où l'Europe a émergé. On a connu une prospérité de 2 siècles et demi, 3 siècles, c'est tout.
Mais c'est allé très très vite. Et donc vous nous racontez tout cela. Vous consacrez plusieurs pages passionnantes à la naissance du libéralisme. Vous remontez même à Montaigne, à celle du capitalisme, à son avènement. C'est un couple, écrivez-vous, d'une grande efficacité, sans ignorer les effets pervers, notamment du capitalisme. Et c'est d'ailleurs un peu la démarche de l'ensemble du livre. Quand vous évoquez un sujet, vous aimez bien montrer un petit peu la totalité de ses angles, l'aspect très positif, comme parfois des effets pervers.
Bien sûr, il y a toujours deux faces à une médaille. Mais là, je suis obligé de parler du capitalisme, qui est un mot qui aujourd'hui, il faut prendre des pincettes pour l'évoquer. Parce que, le capitalisme, c'est la grande efficacité et aussi les inégalités. Mais aujourd'hui, ce dont nous avons besoin avant tout, c'est de l'efficacité. Car après 30 années de recherche, les hommes ont mis au point ces deux énergies. Et c'est maintenant le capitalisme qui est en train de fourbir ses armes, parce qu'il y a de l'argent à gagner, surtout dans l'éolien marin, ce qui va être colossal, et dans le monde entier. Alors, toutes les grandes entreprises, tous les grands majeurs pétrolières, tous sont en train de réorienter leur stratégie vers l'éolien offshore. Ils sont des spécialistes de l'offshore, mais pour une fois, l'écologie et l'économie vont tirer la charrette dans le même sens. C'est ce qui va accélérer les choses. Mais c'est de l'industrie lourde, on va le voir dans les parcs éoliens de chez nous, par exemple Noirmoutier, puisqu'on va en parler tout à l'heure.
On va en parler, parce que vous en parlez aussi, évidemment, forcément. On en parlera tout à l'heure, hein, du projet.
Tout à l'heure, etc. C'est très très long à mettre en route, il faut aménager les ports, des usines, etc.
Donc on a besoin d'argent, si je comprends bien, et d'investisseurs. Aujourd'hui aussi, alors j'avance dans les chapitres...
L'argent ne sera pas un problème.
Non, mais non, parce que si, effectivement...
C'est du privé.
Mais ça devrait aller plus vite alors. C'est ce que vous dites aussi à la fin, hein. Il faut aller un peu plus loin, là, un peu plus vite. Aujourd'hui, un autre événement, c'est celui de la mondialisation. C'est un chapitre aussi, un grand chapitre du livre. Vous écrivez d'ailleurs « Contre le danger mortel du réchauffement climatique dont nous sommes tous responsables, la seule manière vraiment efficace de lutter pour arriver à le limiter sera d'agir ensemble, c'est-à-dire sur le plan mondial. » Et on va comprendre pourquoi, parce qu'il y a vraiment des interactions, mais ça c'est vraiment votre credo. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la COP26, vous suivez.
Oui, mais au fond, c'était la COP 21, c'est en 2015 que tout a commencé, les accords de Paris.
Vous en parlez.
Qui ne sont pas contraignants, il n'y a pas d'amende, rien du tout, etc. Mais à l'accord de Paris, c'est la prise de conscience écrite, officialisée de tous les États pratiquement du monde sur la nécessité de lutter contre le réchauffement.
Et un terme, arrive et va se développer et va évidemment s'installer, c'est la transition énergétique, c'est incontournable. Vous proposez d'explorer le présent, ces thématiques dont on entend parler chaque jour, hein. Vous suivez encore cette démarche pédagogique pour nous expliquer les fameuses émissions de CO2, ces besoins énergétiques de l'homme qui n'ont cessé de croître, et puis des solutions aussi, rappelant effectivement qu'elles existent, vous avez évoqué hein, ces techniques, ces outils. On va parler d'éolien, de solaire, d'hydrogène aussi. Petite pause musicale avant d'en parler avec vous.
Avec le tout dernier Florent Pagny, chanson justement qui correspond un petit peu.
Complètement.
L'avenir, c'est sur Neuve.
Je parle.
C'est un faisceau d'espérance, de rêves mal définis. De ces souffrances issues de nos premiers cris, c'est des projets de vacances dans des pays merveilleux avec des oiseaux qui dansent dans le vert et le bleu. Tout ce qu'on n'a jamais su faire, on le fera. Avec la chance au milieu, on sera ce qu'on espère. On ne sera jamais vieux. On deviendra un bon père. On dira droit dans les yeux tout ce qu'on n'a jamais su dire. On est fait pour bâtir la. Yeah.
L'avenir, c'était Florent Pagny à l'instant, son tout nouveau titre sur Neuf. Justement, on parle de l'avenir dans les rendez-vous de midi avec votre invité Emmanuel jusqu'à 13h, Michel Adrien.
Et c'est un livre plein d'espoir et d'optimisme que nous livre Michel Adrien, La victoire climatique, c'est son titre. La planète est en danger, vous le dites, oui, mais on ne peut pas dire autrement. Et on peut agir, c'est aussi votre propos. Vous consacrez plusieurs pages aux fameuses émissions de CO2. C'est un livre très didactique aussi, avec beaucoup d'informations, beaucoup d'exemples concrets sur chaque chapitre. Hein. Vous ne voulez pas donner plus de chiffres, mais vraiment des exemples. Vous consacrez donc ces pages au CO2, évidemment émissions supérieures à ce que la Terre peut naturellement absorber. Et vous nous rappelez que les premiers responsables, d'abord c'est nous, hein, c'est presque une petite poignée de pays, Union européenne comprise. Vous détaillez, hein, États-Unis, Chine, Russie.
Oui, à ce sujet, je voudrais rectifier la manière dont les gens en France, les commentateurs, parlent de la Chine. La Chine, c'est le plus gros pollueur. Mais c'est pas vrai. Parce que la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. Et chaque habitant chinois émet 6 tonnes 8 de CO2. Et nous, quelque chose comme 6 tonnes 4, quelque chose comme ça.
Donc on est à peu près
équivalent en émissions que le chinois. Mais la Chine continue à... Sur 1,4 milliard, il y a encore 500 millions, 400 à 500 millions qui sont pauvres. Et le reste est presque arrivé à notre niveau. Et pour maintenir la croissance et pour que leur pays et que les 1,4 milliard de Chinois soient à notre niveau, ils investissent énormément dans des choses polluantes. Ils rouvrent ils ouvrent de nouvelles mines à charbon, mais les Chinois nous avaient, dès la COP 21, dit qu'ils atteindraient leur pic de pollution en 2030. Or, ils vont l'atteindre avant. Et ils nous disent, on sera prêt en 2060. Et ça, on peut les croire.
Vous les croyez ?
Oui, je le crois.
Vous évoquez effectivement tous ces pays dont vous dites l'Union européenne, vous comptez évidemment l'Union européenne comme un pays dans ce contexte. Et puis vous évoquez aussi ce terme de transition énergétique avec ce temps fort, on l'a évoqué, la COP 21 en 2015, l'accord de Paris sur le climat signé par 195 pays, un accord qui, vous le rappelez aussi, n'est pas contraignant et on arrive à l'incontournable et nécessaire décarbonisation. Et vous expliquez bien ce que cela implique, toujours dans une volonté de pédagogie, de compréhension, la décarbonisation, c'est pas aussi simple que cela.
Oui, mais décarboner, c'est les énergies renouvelables, donc n'émettent pas de CO2, mais le nucléaire non plus, ou très très peu. Donc le nucléaire et les deux grosses énergies renouvelables, ce sont les trois piliers de la décarbonisation. Mais on ne néglige pas les bioénergies et l'autre élément que la loi française met surtout en avant, c'est la sobriété, c'est le mot à la mode aujourd'hui, la sobriété énergétique. Et on programme une réduction de notre consommation énergétique de près de 40%. Je trouve que c'est dangereux parce que on doit plutôt développer notre économie, l'industrie.
Notre capacité.
Voilà. Et ensuite, il y a par exemple, ceux qui nous écoutent dans leur smartphone, etc., eh bien, le numérique consomme, il va consommer de plus en plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, il faut se préparer et se battre à consommer presque autant d'énergie. Mais attention, aujourd'hui, on ne parle que de l'électricité. Et l'électricité, ce n'est que 25%, c'est le quart de notre consommation.
C'est ce que vous dites, hein, c'est que les trois quarts des énergies qu'on utilise, c'est par les énergies fossiles, dans les besoins qui sont pourvus donc par ces énergies. Le chantier est très vaste. Alors vous avez un chapitre, il nous reste 3 minutes, donc on va résumer un gros chapitre évidemment sur le nucléaire. Vous proposez un vrai état des lieux de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qui pourra se faire demain, avec parfois des limites, des contraintes, des espoirs. L'énergie solaire, c'est important, l'énergie du vent. Et on peut faire une toute petite pause, l'énergie du vent, le parc éolien en mer entre les îles Dieu et de Noirmoutier, vous en parlez d'ailleurs précisément, vous rappelez que les différents recours pour ce parc et d'autres donc ont retardé les chantiers et vous écrivez quel gâchis, Michel Adrien.
Oui, parce que nous passons à côté, nous avons une position privilégié sur le plan géographique. Et chez nous, on va voir se développer l'énergie éolienne en mer, mais avec du retard. Et ce sont les Nordiques qui viennent monter nos parcs, qui viennent monter nos usines. On est passé à côté de cette industrialisation. On va sans doute rattraper parce que nous avons le plus grand domaine économique maritime du monde.
Maritime, oui, c'est ça, donc on a de l'espace.
Voilà.
Mais vous pensez aussi aux marins-pêcheurs, parce que vous êtes toujours un marin-pêcheur dans l'âme.
Moi, je suis un marin-pêcheur, toujours resté marin-pêcheur dans l'âme, et je sens qu'il va y avoir un problème. Quand j'étais mousse ou matelot, à l'époque, la mer était à tout le monde. Il n'y a que 28 ans qu'il y a le droit de la mer. Mais avant, on pêchait partout, tout ce qu'on voulait, etc. C'était la liberté. Aujourd'hui, tout se codifie. Et on donne des concessions pour les pétroliers, on donne des concessions pour les granulats, pour les parcs éoliens, pour l'aquaculture, pour les énergies renouvelables, pour des aires marines protégées. Donc les pêcheurs disent, mais qu'est-ce qui se passe? On va nous enlever notre... On enlevait la terre à des paysans. Donc je suis en train d'écrire un livre, Les marins pêcheurs face aux éoliennes en mer, où j'explique que ça ne sera pas perdu. La pêche va continuer, mais il va falloir s'adapter, partager la mer.
Et puis il va falloir jouer la carte sur table, hein, dites-vous, aux transparences. Alors il est 13h, Michel Adrien, il y a aussi un chapitre sur l'hydrogène. Vous nous parlez donc de l'importance aujourd'hui d'agir maintenant, avec cette exigence d'action et beaucoup de notre d'espoir. Le livre, donc La victoire climatique, est disponible. L'éditeur, c'est L'Étrave. J'imagine que des temps de présentation et dédicaces sont prévus. On m'a signalé votre présence au Salon du Livre de Noirmoutier, le 9e salon. Ce sera le 19 et le 20 décembre au Centre culturel des Salorges. Donc déjà, évidemment, chez vous, à domicile.
Oui,
et puis voilà, donc si j'ai bien compris, d'autres livres sont en préparation. Au moins un autre déjà.
Ah oui, là, je vais en prendre plein la figure. Oui.
Sur les marins pêcheurs. Merci beaucoup, Michel Adrien. Et donc voilà, l'émission en podcast et à lire. On apprend beaucoup, énormément de choses.
La victoire climatique, voilà, le rappel de ce livre. Merci.
Merci. On est encore à l'antenne.
Ah bah oui. Monsieur Adrien.
Non, pas du tout. Le prochain rendez-vous, on va rester sur l'île de Noirmoutier. Vous avez une chef de centre d'incendie et de secours qui s'appelle Émilie Gallet depuis 2 ans. Elle est lieutenante à Barbâtre. Et elle vient donc vendredi, pas d'émission demain, exceptionnellement. Elle viendra vendredi et puis on va lancer un appel. Il faut des pompiers, des sapeurs-pompiers.
Exactement. Ça, c'est pour vendredi le programme dans les rendez-vous de midi à 12h35. À l'émission podcast, n'hésitez pas à réécouter tout ça, évidemment. Très vite, ça arrive, 9fm.fr et l'appli 9. Alain Souchon pour le retour de la musique après les infos, thérapie taxi également. Et à tout à l'heure, 16h sur 9, avec la bonne nouvelle.
Bonjour, 21.